Bonjour à toutes et à tous. C'est Tom et nous sommes sur Radio Campus Tour. Voici l'émission des 4e C du Collège Le Réflessoir à Bléré. Nous allons vous présenter les différentes interviews réalisées sur le musée d'Orsay suite à notre dernière visite à Paris. C'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du musée d'Orsay. Le musée d'Orsay était une gare qui est devenue un musée en 1986. Il se situe dans le 7e arrondissement de Paris, le long de la rive gauche de la Seine. Il y a des œuvres de Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Édouard Manet, Claude Monet, etc. Je me trouve à la sortie du musée en compagnie de deux visiteuses, Olympe et Chloé. Combien de temps êtes-vous restés dans le musée ?
Nous y sommes restés environ 2 heures.
Par quoi avez-vous commencé votre visite ?
Nous avons commencé la visite par les peintures.
Dans ce domaine, quel artiste et quelle œuvre avez-vous préféré ?
Nous avons préféré l'artiste Claude Monet et son œuvre Coquelicot la promenade, réalisée en 1873 à l'huile sur toile.
Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de visiter ?
Nous avons manqué de temps pour visiter les photographies.
Si vous deviez conseiller un secteur à visiter à des inconnus, que leur conseilleriez-vous d'aller voir absolument ?
Nous leur conseillerions primordialement d'aller voir les sculptures, comme la splendide sculpture de Camille Claudel, L'âge mûr.
Moi je trouve bien que les gens puissent connaître des artistes féminines comme elle, car son art de la sculpture est à la fois réaliste et expressionniste.
Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. C'était Lali sur Radio Campus Tour.
Bonjour chers auditeurs, je me trouve actuellement au musée d'Orsay. Ancienne gare devenue musée en 1977, ce lieu riche en culture se situe dans le 7e arrondissement de Paris, sur la rive gauche de la Seine. Actuellement, et jusqu'au 17 juillet 2022, se déroule une exposition sur le célèbre architecte espagnol Antoni Gaudí. Je m'approche des visiteurs. Oh, bonjour monsieur, je vois que vous sortez du musée d'Orsay.
Oui, effectivement.
Tout d'abord, quelles sont vos premières impressions ?
Je suis déjà venu dans le musée et je reste toujours aussi admiratif devant les œuvres présentées. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps pour tout voir durant ma dernière visite. Je suis donc revenu pour continuer mon exploration.
Monsieur, si vous êtes revenu, est-ce pour l'exposition sur Antoni Gaudí ?
Non, pas spécialement. Antoni Gaudí ne m'intéresse pas plus que ça et ses œuvres ne sont pas tant à mon goût.
Et si Gaudí n'est pas votre préférence, quelle œuvre avez-vous le plus admiré et pourquoi ?
Le pont d'Argenteuil. Je l'apprécie car la technique d'huile sur toile est parfaite, représentant bien les reflets sur l'eau du lac.
Et dites-moi, quels adjectifs utiliseriez-vous pour décrire ce tableau ?
J'utiliserai des adjectifs tels que magnifique, surprenant, voire même saisissant.
Et quelle sculpture avez-vous le plus apprécié ? Pourquoi ?
J'ai beaucoup apprécié Pénélope de Jules Cavelier, car j'adore l'Odyssée d'Homère et ses statues représentent bien l'attente de la femme d'Ulysse, Pénélope.
Parlons un petit peu de l'ancienne gare. Quels aspects pouvons-nous retrouver ?
J'ai notamment remarqué quelques aspects imposants, tels que le toit et l'horloge située à l'avant de la gare.
Et de quelle période est recouverte le musée ?
De souvenirs, c'est l'impressionnisme qui couvre une grande partie du musée.
Quel artiste pouvons-nous le plus retrouver dans ce musée ?
Cela doit sûrement être Vincent Van Gogh.
Si Van Gogh est présent au musée, pouvez-vous me citer quelques-unes de ses créations ?
Tout d'abord, il y en a une très connue. Le portrait de l'artiste. Mais on retrouve aussi la chambre de Van Gogh à Arles et l'Arlésienne.
Très bien. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à mes questions et informer nos chers auditeurs. Je vous dis à bientôt. C'était Eléago sur Radio Campus Tour.
Bonjour, nous nous trouvons devant le musée d'Orsay dans le 7e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous allons interroger un visiteur du musée. Bonjour monsieur, je vais vous poser plusieurs questions. Que pensez-vous du musée d'Orsay ?
Je pense que ce musée est très intéressant et très passionnant.
Quelle est votre œuvre préférée ?
Mon œuvre que j'apprécie le plus est La nuit étoilée de Van Gogh.
Pourquoi aimez-vous cette œuvre ?
Je l'aime car elle est très intéressante dans les contrastes de couleurs.
Quelle est l'œuvre que vous avez le moins préférée ?
C'est sûrement la chambre de Van Gogh, à Arles.
Pourquoi vous ne l'avez pas aimée ?
Je ne l'apprécie pas car il y a beaucoup de couleurs très différentes.
Pourquoi avez-vous choisi ce musée et pas un autre ?
Car j'en ai visité beaucoup. mais je voulais revenir sur celui-là.
Que pensez-vous de l'exposition temporaire ?
Je ne l'ai pas regardé plus que ça, mais je l'apprécie quand même.
Que pensez-vous de la taille du musée ?
Il est très grand.
Depuis combien de temps êtes-vous à l'intérieur ?
Je ne sais pas exactement, mais je suis là depuis minimum 2 heures.
Combien de fois avez-vous visité ce musée ?
C'est la 2e fois que je le visite.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était Maxence sur Radio Campus.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le 7e arrondissement de Paris, dans la rue de la Légion d'honneur, devant le célèbre musée d'Orsay. Ce musée est une ancienne gare qui a été construite par Victor Laloux. Elle a été transformée en 1977 en musée, car la gare était menacée d'être démolie pour être remplacée par un hôtel moderne. Nous allons maintenant interviewer des visiteurs du musée d'Orsay. Bonjour monsieur, quelle œuvre avez-vous le moins aimée ?
Pour moi, c'est la sculpture Le Tube d'Edgar Degas.
Puis-je savoir pour quelle raison ?
Parce que je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande, sa taille est totalement disproportionnée par rapport à son poids.
Quel type d'œuvre avez-vous le plus apprécié ?
Ce sont les peintures à l'huile, sur toile, que j'ai le plus aimé.
Comme quelle œuvre ?
Comme l'œuvre marchande d'huile à Azou et la Santa Maria à Rome.
Quel peintre a le plus attiré votre attention ?
Le peintre qui m'a le plus attiré est sans hésiter Van Gogh.
Et pour quelle raison ?
Dans la plupart de ses œuvres, il raconte un sujet personnel, que ce soit par rapport à ses auteurs-portraits ou à son tableau La Chambre.
Quelle œuvre vous ferait revenir dans ce musée ?
Selon moi, l'œuvre qui me ferait revenir est le tableau Londres, le Parlement troué dans le brouillard.
Et pourquoi ?
Le ciel et l'eau sont peints avec les mêmes tonalités, dominées par le mauve et l'oranger.
Que pensez-vous de cette mythique architecture du musée d'Orsay ?
C'est sublime. Le style Beaux-Arts va bien avec le musée.
Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de ce musée ?
C'est un très beau musée. Il y a une forte diversité des œuvres. Je vous recommande d'y aller.
C'était Anton sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous trouvons aujourd'hui devant le musée d'Orsay dans le 7e arrondissement de Paris. Ce monument est connu dans le monde entier car c'est une ancienne gare transformée en musée en 1986. Nous pouvons y trouver des œuvres exceptionnelles créées par Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Édouard Manet et autres. Avec une superficie de 57 400 m², le musée offre une grande collection de peintures du courant impressionniste et post-impressionniste. Nous sommes à la sortie du bâtiment et je m'apprête à interviewer une femme et son petit frère pour connaître leurs ressentis vis-à-vis du musée. Qu'avez-vous pensé des œuvres temporaires que ce musée a à vous offrir ?
Selon moi, ce musée regorge de trésors. Je les ai beaucoup appréciés.
Pour ma part, je les ai préférés aux collections permanentes.
Justement, qu'avez-vous à dire à propos des collections permanentes ?
Je les trouve splendides et intéressantes.
C'est une grande opportunité d'avoir cette collection en France, car on peut y voir des œuvres totalement uniques qu'on ne peut voir ailleurs.
D'ailleurs, madame, quelle œuvre dans ce musée vous a le plus inspirée et a retenu votre attention ?
Je pense que l'œuvre qui m'a le plus interpellée et qui demeure ma préférée est l'huile sur toile, la nuit étoilée de Vincent Van Gogh de 1888.
Pouvez-vous décrire ce tableau pour les auditeurs qui nous écoutent ?
Ce tableau représente 2 personnes qui me paraissent être en couple, qui sont sur une berge. À l'arrière-plan, la ville se dessine dans la nuit. Ses lumières se reflètent dans le lac juste devant celle-ci. Le ciel occupant une grande partie du tableau attire directement les yeux des visiteurs. La chose marquante reste les étoiles brillantes comme des soleils.
Et qu'avez-vous ressenti en la regardant ?
Ce qui m'a interpellée, c'est la sérénité qu'elle rejette et son romantisme.
Pour quelle raison est-ce que ce tableau en particulier vous a intéressé ? Qu'est-ce qui a, en quelque sorte, déclenché l'étincelle et en fait votre préféré ?
Je me suis sentie comme submergée et aspirée par ce tableau, mais surtout par ce ciel illuminé par les étoiles.
L'année suivante, Vincent Van Gogh a réalisé un tableau similaire de la nuit étoilée. L'avez-vous vu ?
Oui, je l'ai vu et je l'apprécie, mais je préfère sa première œuvre de la nuit étoilée.
Pourquoi préférez-vous celle de 1888 ?
Je la préfère car je préfère le mouvement expressionniste à celui de post-impressionniste.
Et vous, monsieur, Quelle œuvre avez-vous préférée ?
Ma sculpture préférée se nomme L'ours blanc de François Pompon.
Pourquoi avez-vous jeté votre dévolu sur cette statue ?
Que je trouve cet ours mignon et l'illusion de ses pattes intéressant. Nous avons l'impression que les pattes sont mises en évidence grâce à leur disproportion. L'ours paraît encore plus fort grâce à la taille de ses pattes avant.
Et par rapport au musée, savez-vous qui sont les quatre architectes qui ont réalisé l'aménagement intérieur du musée d'Orsay ?
Je sais qu'il y a Victor Laloux.
Je crois qu'il y a aussi Pierre Combloc, Renaud Badon et Jean-Paul Philippon.
Quelle est, d'après vous, la période artistique couverte par le musée ?
Selon moi, c'est l'impressionnisme.
C'est exact. Qui a construit la gare d'Orsay qui s'est ensuite transformée en musée ?
Il s'appelle Victor Laloux.
Merci pour votre temps à tous les deux. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et suivis sur la radio Campus Tour. C'était Anne-Olivia Gauthier.
Bonjour et bienvenue à votre émission culturelle C'est à Paris. Aujourd'hui, nous nous rendons dans le magnifique musée d'Orsay. Situé dans le 7e arrondissement, rive gauche de la Seine, au plein centre de Paris. Le splendide bâtiment de style haussmannien expose dans ses 57 400 m² toute sa diversité. Peinture, sculpture, art décoratif, art graphique, photographie et architecture. Aujourd'hui, nous allons partager le ressenti d'un visiteur. Pour ce faire, je vais m'approcher de quelques touristes. Puis-je vous demander d'où vous venez ?
Eh bien, je viens d'Atlanta, dans l'état de Géorgie, aux États-Unis.
Et donc, pourquoi avez-vous choisi de visiter ce musée en particulier et pas d'autres tout aussi intéressants ?
Alors, j'ai entendu parler des magnifiques œuvres exposées.
Je suppose que vous avez déjà visité le musée, vu l'heure qu'il est ?
Oui, je viens de passer quelques heures.
Avez-vous eu le temps de tout visiter ?
Non, malheureusement, je n'ai pas pu tout visiter, que certaines parties du musée.
Oui, je comprends. Quel dommage. Avez-vous eu l'occasion de voir les œuvres impressionnistes ?
Oui, j'en ai vu quelques-unes.
Magnifique. Il y en a-t-il une qui vous a le plus marqué ?
J'ai adoré le bal du moulin de la galette.
Et pourquoi cela ?
Parce que je trouve que le peintre a bien représenté la vie quotidienne des Parisiens à Montmartre. Tous les petits détails du tableau le rendent presque réel.
C'est une des caractéristiques d'Auguste Renoir. Avez-vous vu une œuvre qui vous rappelle les États-Unis ?
Eh bien, vous savez bien d'en parler. J'ai vu en vrai le tableau Arrangement gris et noir, numéro 1.
En vrai ? C'est-à-dire, racontez-nous.
Eh bien, ce fameux tableau a fait son apparition dans l'un des films de Mr. Bean. Ce dernier avait abîmé la peinture en éternuant dessus, en l'essuyant avec un essuie-tout plein d'encre.
Tout cela m'a l'air très comique.
En effet, ça l'est.
Suite à votre visite, pensez-vous recommander à vos compatriotes et à nos fidèles auditeurs la visite du musée d'Orsay ?
Ah oui, je recommanderais cela sans aucun doute. Pour moi, c'est le plus beau musée de Paris.
Merci pour votre coopération.
Je vous en prie.
Votre émission culturelle parisienne s'arrête sur ces mots. C'était Radio Campus Tour. À bientôt.
Bonjour, aujourd'hui, nous les 4B du collège Le Réplessoir à Bléré, nous allons vous présenter nos slams. Le thème, la vie. Nous les avons écrits en solo ou en duo. Bonnes écoutes à tous et à toutes.
Gustav Sobram nous montrant son art, son idée réalisée pour gagner nos regards. Cette tour à plusieurs étages montre un beau paysage. Cette dame de fer se transforme dans l'obscurité avec une belle atmosphère. La nuit, le symbole de Paris. Illuminée pour la France, ambiance de romance. J'aimerais tant y aller, mais je pourrais jamais y arriver. C'est toi, ma belle tour Eiffel. Paris de midi à minuit, Paris de minuit à midi. C'est toujours animé, agité, mélangé. C'est la proximité et l'isolement.
Parlons maintenant de cet arc d'un point et leur rue. Là où leurs regards se sont posés pour l'admirer au moment où il a été décoré. Beaucoup en ont parlé, mais en ont vite été lassés. Parlons aussi de ce vieux musée, là où sont enterrer les vestiges du passé que beaucoup ont agressé.
Paris de midi à minuit, Paris de minuit à midi, Paris et ses Champs-Élysées, ses éclairages, ses mirages.
Son défilé du 14 juillet, ça fait toujours rêver. La fin de la visite est arrivée, je vous souhaite une bonne journée.
Après toutes ces années, on se fait encore écraser par les tramways. Mais tout ça n'est pas que du passé. Un incendie s'est déclaré ce vendredi 13 mai. Suivi une intervention des pompiers pour sauver un homme sérieusement brûlé. Pour survivre, les gens doivent économiser. Et cela rime avec travailler. Mais cette société va s'écrouler si on continue pas à s'en occuper.
Pendant que des riches partent en fusée, ici-bas on crève les yeux fermés. Pour que les immeubles puissent s'élever, des dizaines d'habitants sont sacrifiés. On a inventé les voitures, mais combien de gens n'ont pas de chaussures? On a construit un mur sans en laisser aucune fissure. La moutarde est épuisée, mais on continue à se bagarrer. Pendant que des gangs sont installés, la police continue à tuer. Sous notre belle et grande fenêtre, des SDF prient de tout leur être. Si seulement tout ça pouvait s'arrêter, on n'aurait plus à s'inquiéter. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez encore continuer maintenant que tout ça est éclairé?
Et c'est comme ça dans le monde entier.
La pyramide du Louvre
est vraiment ordinaire.
Et Notre-Dame de Paris,
c'est un peu la misère.
La gare d'Orsay,
c'est du passé.
Et son musée,
sans le renfermer.
Et les cadenas des ponts des arts, il faut avouer
que c'est ringard.
On fait tout un plat
de Paris,
du bitume, du goudron. Des hommes en costume, des femmes
en haut talons.
On occulte
trop la nature,
toute sa beauté,
toute sa verdure.
On oublie trop
les paysages admirables. En zone urbaine, la vie quotidienne
reste personnelle.
Contrairement à la zone rurale,
où tout le monde râle, où tout le monde se parle.
Les gens de la campagne
nous prennent vite en otage.
Même si on veut rester discret,
on fait partie de ce village.
Même si dans les cafés il y a plein de commérages, il n'en reste pas moins
qu'on aime ces bavardages.
Même si Paris donne envie,
cette campagne on y vit.
On n'a pas envie de la quitter,
on s'y est attaché.
Au bord de la mer, la vue n'est plus amère. La circulation, les bouchons, ce n'est plus vraiment bon. La promenade des Anglais les laissera marquer. Impossible à oublier, un 14 juillet. En noir et rouge, les gens sont habillés. Émeute en pleine journée. Supporters et avis mitigés. Le beau, le faux, où est la frontière? Qui passe la marche avant, qui va en arrière?
Là, on est dans les beaux quartiers, balade dans les jardins du cimier. Quand la nuit arrive, les bagarres défilent. Ça fait beaucoup de bruit dans le centre-ville. La plage, les galets, ne pas y aller sans ses souliers. Nice peut vous faire changer, belle ville à visiter, dur d'y habiter. Le beau, le faux, où est la frontière? Qui passe la marche avant, qui va en marche arrière? C'est le Nice de l'endroit, de l'envers.
Voir tours et ses détours, apprécier ses contours. Voir tours et ses bars, le long du grand boulevard. Voir tours démasquer, les poubelles engorgées. Voir tours et ses commerces, leurs boissons et leurs promesses. Voir tours et ses places, de parking et de terrasse. Voir tours et ses détours, aller voir les lieux d'histoire, même si je n'ai toujours pas compris qui était histoire. Les magasins un peu zinzin, les commerces en détresse. Puis il y a les places, les terrasses, les tapas, les palaces. Se dépassent les carcasses de rascasses. Dans Tours, il y a de tout et il y a tout autour.
Marcher sur le boulevard Béranger, décompresser, profiter, ne pas faire de bruit pour ne surtout pas le déranger. Faire un tour vers la rue nationale, puis faire un tour dans le vieux tour, là où les ruelles datent de l'époque médiévale.
Ensuite, direction le musée des Beaux-Arts, placé dans l'ancien palais épiscopal, là où l'on trouve des œuvres par milliards. Rendez-vous devant le palais de justice, évité de justesse, là où rôde la police qui surveille la jeunesse. Traîner devant la gare de Tours, puis tourner au prochain carrefour.
Marcher et admirer le palais des congrès, les petites ruelles isolées contrebalancent avec les grandes rues habitées.
La ville de Tours vaut le détour pour ses fontaines, pour ses contours.
devant le palais de justice, on voit la police, ce que les jeunes de quartier appellent les condés. Eux, ils vendent la beuh pour les riches bienheureux, ils commettent ce forfait pour les faire planer. Devant les magasins, il y a les musiciens, et les passants regardent les manifestants. Regardez un instant tous ces gens sur les bancs, père, mère ou bien enfant.
Devant la gare, les fraudeurs prennent de l'ampleur. Les trains passent de plus en plus tard, les gens en ont marre. Devant les travailleurs, il y a des frimeurs. Ils montrent qu'ils sont riches, mais ce ne sont que des boniches. Dans le quartier du Sanitas, où chassent les rapaces,
les enfants sont en danger et leurs parents résignés.
Et ouais, la ville de Tours, ça vaut le détour.
Paris, c'est pourri, y'a trop de pollution.
Marseille, c'est pareil, y'a trop de provocations.
Nice, c'est encore pire, il fait beaucoup trop chaud.
Rennes, c'est pas mieux, il fait vraiment pas beau.
Saint-Etienne, c'est pas très pollution.
J'aime pas la cité, demain Ligomont.
Dans la ville, y'a beaucoup trop de monde.
J'ai l'impression d'être le centre du monde.
Je viens pas de la cité, mais j'ai le beat et la haine.
Je viens pas de Paname, mais c'est vrai, Touraine.
Que tout le monde est friqué à mettre un smic dans des souliers. Les oubliés, les sans-abri trouvent leur bonheur dans l'eau de vie. Vimés pour crever, espérant loin du quai, retrouver ceux qui se sont perdus dans le marché, surtout ces légumes étalés.
Il y a aussi les fêtards, ceux qui sortent tard le soir et qui près des boulevards pensent vivre un cauchemar. C'est ceux en costard qui posent leurs yeux sur la gare, tentant de ne pas être en retard, pour échapper aux leftards qui passent leur journée au bar. C'est aussi là qu'on voit la société se dégrader, qu'on repense à ses paroles données, parler qu'à ceux que tu connais. Pensant que ça allait nous freiner, malheureusement, c'est loin de ce qu'ils croyaient.
À côté de leur campagne, vie rurale,
Tours, c'est un peu la capitale.
La seule chose qui me tienne, c'est un pan de ta veste. La douceur de vos mains et ce décor trop grand pour que je le contienne. Ce paysage trop blanc qui s'incruste dans mes veines. C'était tellement beau, les collines autour, les sentiers qui y mènent, les temps en contrebas. La neige que l'on sème, dans mon crâne une musique fait des siennes. Quand elle s'en va, j'entends qu'elle vienne. Elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tic-tac-tac tac. Elle fait flic-flac, flic-flac, flic-flic-flac-flac. Tu l'entends, dis, tu l'entends le rythme de mon sang.
Marseille, la vie du soleil, je descends direct sur le vieux port et tant pis si t'es pas d'accord. Là-bas je suis posé sur la mer, je prends un coca pas cher, quelle belle vue sur la bonne mer, elle envoie
peu cher.
Marseille, la ville du soleil.
Je passe par la Castellane, le quartier de Canto et Zidane. Il y a des scooters qui se cavent, il y a des bières qui savent, des canettes par terre sur la canebière. Il y a des mecs qui écoutent Joule, Naps et la crapule.
Marseille, la ville du soleil, il n'y en a pas deux pareils.
À peine arrivé au quartier, l'évêché est déjà garé, prêt à arrêter les enfants de quartier défavorisé. Il y en a qui fument de la beuh et d'autres qui boivent pour deux.
Ils traînent dans la TES, c'est la TES VS les CRS, ils font les fous alors que c'est chez nous. Marseille, la ville du soleil, il n'a pas de pareil.
Thank you.
la ville. Dans ma ville, y a pas d'étoiles qui brillent. Y a que les lampadaires qui nous éclairent. Dans la ville, y a que les gens qui se pressent sans se voir, le regard fixé sur le trottoir. Dans la ville, pour être à l'heure au boulot, les travailleurs s'entassent dans les métros. Les plus courageux prennent leur vélo en évitant la longue file des autos. Et moi, observant ce va-et-vient incessant depuis mon balcon, je rêve à d'autres horizons. Dans ma ville, y a pas d'étoiles qui brillent. Mais un jour, ça sera la quille.
Je vois le soleil levé éclairant la ville, éclairant ce havre de paix posé sur une île. Les enfants heureux jouant aux billes, et je vois ça du rétro de mon automobile.
Je vois le quartier dans la nuit sombre, les dealers vendent dans la pénombre. L'homme est derrière lui son ombre, et le SDF du quartier sous les décombres.
Je vois les gens s'amuser avant qu'il se mette à pleuvoir, les musiciens de rue jouant sur les trottoirs, la boulangerie en face de la rue sur le boulevard. Et les tags sur les murs, je vous jure, c'est de l'art.
Je vois celle qui sert de décharge, la ruelle. Tout ça à cause d'un manque de cervelle. Les chats sauvages s'effritent dans cette venelle. Et les mômes raquettés dans cette ville cruelle.
Je vois les habitants de cet endroit, les piétons, avec leur visage heureux. Ici, il y en a des millions. Ceux dandinant et marchant sur le trottoir en béton. Et les quartiers en construction, fruit d'une forte imagination.
Je vois les salariés du bureau contrôler tel des pions. Les gens du quartier, tous en location. Et cette ville, telle... heureuse, on vous donne l'impression. Et pourtant, certains sont dans la dépression.
Je vois.
Aujourd'hui, nous sommes au CDI du collège Le Réfléchoir de Bléré. La classe de 4e A prépare depuis une semaine différentes histoires, contes et faits divers fantastiques à l'aide de la documentaliste et de notre professeur de français. Nous vous proposons de les écouter dès à présent. Amis chroniqueurs et chroniqueuses, c'est à vous.
Un village entier miniaturisé. Hier matin, les habitants du village d'Aizé ont eu la surprise de faire la rencontre de plusieurs fourmis géantes, avant de se rendre compte qu'ils avaient été miniaturisés ainsi que leur maison.
Une habitante de Noyers-sur-Cher, qui allait à Mantoue, s'est rendue compte de ce phénomène surnaturel. Nous l'avons interviewée.
J'allais travailler au restaurant L'Horizon quand j'ai vu que sur la route, il n'y avait plus aucune habitation. Tout était rassemblé sous la forme d'un labyrinthe.
Les scientifiques de l'Université de Tours sont en ce moment même en train de chercher la cause de ce phénomène. Les recherches sur les remèdes sont aussi lancées. Une information de dernière minute. Les scientifiques pensent avoir trouvé la cause.
En effet, une ancienne légende rapporte que le village de Thésée est encore sous l'influence de la malédiction du Minotaure.
Les mystères du manoir hanté. Une légende raconte que si on se rend dans le manoir Froussard et que l'on fait 3 fois le tour de la pièce principale, quelque chose se passera. Un jour, 2 enfants se retrouvèrent devant le manoir Froussard.
Waouh, un manoir, on va voir ?
Oh non, il fait trop peur, moi perso j'y vais pas.
Bon ok, on reviendra demain après les cours.
Bon ok.
Le lendemain, ils se rendirent sur les lieux et entrèrent à nouveau... et 7 fois pénétrèrent dans la demeure, malgré la rétinence de Bethany.
T'es sûr de vouloir y rentrer ?
Bah oui, allez, viens. Tiens, un drôle de chapeau sur le chemin. Et un nez de clown. Ça y était pas hier. J'avais hâte d'arriver à ce moment décisif. Regarde, il y a une ombre bizarre derrière la porte.
Elle court se réfugier dans les bras de Matteo, tétanisé par la peur.
N'aie pas peur, ça doit juste être un chat errant, écoute. Il y a des bruits étranges, je te dis.
Jordan, je t'avais dit de pas l'amener, pas de chien. C'est quoi ça?
Bon, rappelle-toi de la légende. Moi, je ferai le tour de la demeure rien que pour voir.
Bah vas-y toi, et alors en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne revient toujours pas. Ah, te voilà enfin, je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose.
T'inquiète, tout va bien.
Ils montèrent au premier étage.
Moi je tiens plus, ouvrons cette porte.
Coupez!
Allez les figurants, vous pouvez sortir.
Un collégien disparaît dans la forêt de Brocéliande lors d'une course d'orientation. Il est retrouvé quelques heures plus tard. Jeudi 23 novembre, Carl et Paul ainsi que le reste des élèves de la classe de 5e D du collège de Pimpon partent en bus pour une course d'orientation avec leur professeur de sport, M. Tuchard. Selon une source proche de l'enquête, l'enseignant aurait énoncé des consignes strictes et rigoureuses aux élèves dès le début de l'activité. Ne sortez pas du périmètre à explorer. Il est délimité par des banderoles rouges et blanches. Allez, Arthur va nous raconter la suite de l'histoire.
Les binômes laissés au libre choix des enfants partent donc à la recherche des balises durant quelques minutes. Carl et Paul, groupe numéro 6, se répartissent sans même regarder le plan donné. D'après deux jeunes filles interrogées par les gendarmes, ils auraient dit ne pas en avoir besoin car ils connaissaient la forêt sur le bout des doigts. À 16h, heure à laquelle les élèves doivent se rassembler, le binôme numéro 6 est incomplet. Paul manque à l'appel. Carl, qui croit d'abord à une plaisanterie de son camarade, constate avec angoisse qu'il n'en est eu rien. Il explique à son professeur « J'ai eu une envie pressante, je me suis éloigné du chemin et quand je suis revenu, il n'était plus là. » Allez, dis-nous en plus, Marceau.
Après de longues minutes de recherche infructueuses et en dépit des appels des collégiens, l'adolescent reste introuvable. Le jeune professeur panique et appelle le chef d'établissement. La brigade prend l'appel au sérieux. Rapidement, un véhicule de la gendarmerie arrive sur place, il boucle la forêt et interroge des promeneurs. J'ai aperçu un enfant près de la route qui mène à Concoré. Il était agité, il parlait fort. Un homme l'a empoigné, puis l'a conduit jusqu'à son véhicule. Le jeune a continué de se débattre, puis la voiture a démarré prestement, déclare une vieille dame en promenant son chien. Et alors, qu'arrive-t-il après ?
Les enquêteurs, convaincus d'un enlèvement étant donné les circonstances de la disparition, font appel à la sécurité civile de Rennes. L'hélicoptère se rend sur place à 16h40. Au même moment, le bus scolaire repart vers le collège afin de ramener les élèves avant l'heure de la sortie. Que se passe-t-il ensuite ?
Sous les conseils du responsable de la brigade de la gendarmerie de Pimpon, l'enseignant constate la mère du jeune en vain. En vain, il laisse un message demandant de le rappeler au plus vite. Puis il retourne sur le lieu de recherche. Au beau milieu de la soirée, à 19h20 exactement, l'enseignant, dévasté par l'inquiétude et l'attente terrible qui l'empêche de rentrer chez lui, entend son téléphone sonner. Allez Arthur, à toi de jouer.
Bonjour, c'est la police. Venez tout de suite à la gendarmerie. Je suis avec Paul qui a été victime de kidnapping par son père, qui a déjà eu un casier judiciaire. Pendant plus de 2 heures, le collégien a été séquestré. Le jeune garçon a trouvé une issue de secours vers 19h. De là, Paul nous appela. Il a pris l'initiative d'interroger des passants pour les demander un téléphone. Il appela le 17, on géolocalisa Paul, puis on alla le chercher. Il se souviendra de ce jeudi 23 novembre.
Esprit de la forêt, la famille Tana et Lucifer, son chat noir, emménagent au beau milieu de la forêt d'Amboise.
Chaque nuit, à minuit, un bruit fracassant se fait entendre sans qu'on puisse savoir d'où il provient.
L'un des enfants se souvient que des gens rencontrés parlaient d'une légende.
Un enfant aurait été tué et son tueur aurait le même nom que la famille qui a emménagé.
Son fantôme viendrait-il se venger ?
La nuit suivante, on entend le même fracas retentir, puis quelqu'un frappe à la porte 2 fois.
Un matin, la porte du sous-sol semblait ouverte.
Le lendemain, à la même heure, on frappa 3 coup à la porte et elle s'ouvrit.
Une ombre fit son apparition.
Le réveil sonne à 6 heures et l'ombre disparut.
D'arrache-pied. René débroussaille l'herbe de son jardin quand le voisin de Trini vient lui souhaiter le bonjour.
Tout à coup, René passa la débroussailleuse sur les pieds de Trini. Tchac ! Le pied se détacha et roula par terre.
Les ambulanciers arrivent sur le lieu de l'accident. Trini est évacué par l'ambulance, pendant qu'un ambulancier dépose le membre dans une glacière.
Arrivé à l'hôpital, le chirurgien ouvrit la glacière. À sa plus grande stupeur, il se rendit compte que le pied bougeait.
En observant Trini, tout le monde remarqua que le pied faisait les mêmes mouvements que la jambe. Le pied était encore vivant.
Le toboggan de l'infini. Tim et son ami se promenaient dans le parc des Boissiers, comme tous les mercredis après-midi. Le toboggan était leur endroit préféré.
Le dernier arrivé est une peau mouillée.
Lilou descendit du toboggan à toute allure, puis nargua Tim.
J'ai gagné, t'es naze.
N'importe quoi, je parie que je suis plus rapide.
Tim, ne se laissant pas abattre, se précipita sur le toboggan, descendit à toute allure et arriva les fesses dans le sable mouillé. Tout à coup, il sentit le sol trembler sous ses jambes.
Qu'est-ce qui se passe ?
Le sable se dispersa, puis il tomba violemment dans un trou. Celui-ci se referma. Sous la violence du choc, Tim s'évanouit.
Il se réveilla quelques heures après dans un labyrinthe sombre et humide. Il commença à paniquer et à courir dans tous les sens. Il vit une lumière, Tim se précipita vers elle, mais plus il s'approchait d'elle, plus elle lui paraissait loin. Pendant qu'il marchait, il avait l'impression d'entendre la voix de Lilou.
« Tim, où es-tu ?»
Enfin, il arriva au bout du labyrinthe, il s'endormit profondément. Le lendemain matin, il se réveilla en haut du toboggan. Il crut que c'était un cauchemar. Il descendit du toboggan et quand il arriva en bas, un trou s'ouvrit comme dans son cauchemar. Il retomba dans le labyrinthe, Tim se perdut, se demande ce qu'il se passe. Il courut vers la sortie et réatterrit en haut du toboggan. L'histoire se répéta indéfiniment.
Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami.
Faites gaffe, vous repassez la bande d'hier.
Problème de circulation ce soir avec ce... Comment déjà ? Ce blizzard.
CLB. Club Lecture Bléré.
Bonjour, nous sommes les élèves du Club Lecture du Collège Le Reflessoir de Bléré. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des livres que nous avons sélectionnés.
Bonjour, je m'appelle Alena et je vais vous présenter un roman policier qui s'appelle Envy. X et Y, Xavier et Johan, de vrais jumeaux. Xavier le raisonnable, Johan le joueur. Lors de la fête pour leurs 16 ans, la fête dégénère. Xavier crève l'œil de son jumeau pour une histoire de fille. 20 ans plus tard, Envy tourniquet, confinée chez elle à cause du coronavirus, tente d'aider Augustin Meupetit, immobilisé dans un fauteuil roulant à cause d'une course-poursuite qui a mal fini, à résoudre un trafic de drogue. Elle ne le sait pas encore, mais cette enquête pourrait l'amener à des découvertes qu'elle ne serait pas prête à entendre.
Le débat.
J'ai adoré ce roman policier pour ses rebondissements et son intrigue palpitante. On s'identifie facilement au personnage principal.
Ce que j'ai énormément apprécié dans cette trilogie, c'est que l'histoire se déroule pendant le coronavirus et il y a très peu de livres qui racontent le moment de l'épidémie. Marie-Aude Muraille et Loris Muraille m'ont plongé dans leur univers.
Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai adoré ce livre, mais les premiers chapitres sont compliqués à comprendre quand on n'a pas le contexte. Et les personnages sont très attachants.
Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe dans une ville défavorisée. De plus, il y a plein d'informations très détaillées.
Ce livre m'a plu, mais je me suis emmêlée dans les prénoms des personnages.
Moi, je trouve dommage que les auteurs n'aient pas plus creusé la vie des policiers et comment ils font pour mener leurs enquêtes.
Oui, mais il est aussi très important de préciser que c'est une trilogie très accrocheuse.
Bonjour, je m'appelle Alice et je vais vous présenter un roman qui s'appelle Pax et le petit soldat. Peter est un petit garçon et Pax, un renard, son meilleur ami. Mais la guerre éclate et Peter est obligé d'abandonner Pax dans la forêt. Mais seulement, Pax ne sait pas se débrouiller tout seul. Alors, Peter part à sa recherche. Pax va-t-il survivre ? Peter va-t-il le retrouver ? J'ai adoré ce livre car il est très émouvant. C'est un roman à deux voix et je me suis demandé pourquoi il y a le petit soldat dans le titre.
Bonjour, je vais vous présenter un manga qui s'appelle A Silent Voice de Yoshitoki Wama. C'est l'histoire de Shoko qui est une jeune fille sourde depuis sa naissance. Elle est donc équipée d'un appareil auditif et d'un carnet de conversation. Son père l'a abandonnée étant petite pour cause de son handicap. Sa mère est donc seule à l'élever. Dans sa nouvelle école, elle est harcelée par un jeune homme répondant sous le nom de Shoya. Le harcèlement devient de plus en plus violent.
Le débat.
J'ai bien aimé car ça apprend des choses sur le harcèlement. Je le conseillerais à partir de 9 ans.
Mais Shoya n'était pas seule à l'harceler, il y avait aussi sa bande d'amis.
Je suis d'accord et j'ai aimé le fait que par la suite, ses amis se retournent contre lui.
J'ai bien aimé cette série de mangas de cet homme parce qu'il parle bien du handicap et de l'harcèlement.
Bonjour, je m'appelle Boto, je vais vous présenter Snapdragon de Kat Lee aux éditions Kinai. Snapdragon est une ado qui n'a aucun ami. Elle vit aux États-Unis dans un quartier de Mobile Home. Dans son école, des élèves disent qu'une sorcière vit dans leur ville. Jack est en réalité une vieille femme qui vit dans une maison à l'écart de la ville et qui vend des squelettes d'animaux sur Internet. Elle ramasse des animaux écrasés, fait alors un petit rituel. Snapdragon va la rencontrer en cherchant son chien et se rendre compte qu'elle est gentille. Jack va apprendre à Snap comment prendre soin des bébés au Posium et à force de la côtoyer, Snap découvre que Jack pourrait faire de la magie et même peut-être avoir des liens avec sa famille. J'ai bien aimé cette bande dessinée car il y a des retournements de situation, du suspense, des surprises, de la magie, des découvertes. Cette BD a eu un prix, le prix de la jeunesse à Angoulême.
Le débat.
Oui, je suis d'accord avec Boto, donc l'héroïne est très sympathique. Sa rencontre avec Jack est un véritable changement dans sa vie. Et ce qui est super chouette dans cette BD, c'est qu'elle aborde des thèmes comme la pauvreté, la tolérance et la confiance en soi.
Bonjour, je m'appelle Chloé. Je vais vous présenter un manga intitulé « L'atelier des sorciers » aux éditions Pika. C'est l'histoire de Coco qui est fascinée par la magie, mais ce ne sont que les sorciers qui la pratiquent. Malheureusement, on est sorcier, on ne le devient pas. Alors qu'un sorcier passe dans son village, Coco l'espionne. Elle apprend qu'il faut juste dessiner les sorts et les enchantements pour qu'ils prennent vie. Et tout le monde peut pratiquer la magie. Cette découverte bouleverse la vie de Coco, qui devient une disciple de ce mystérieux sorcier. L'auteur Kamon Shirahama a fait 10 tomes dont le dernier est sorti en 2022. J'ai beaucoup aimé l'atelier des sorciers, mais j'ai trouvé dommage de ne pas savoir plus de choses sur la population du monde magique et sur leur culture. L'univers est un peu déroutant, mais en définitive, c'est un manga incroyable et très bien dessiné.
Bonjour, je m'appelle Élie, je vais présenter une bande dessinée, La boîte à musique de Carbone. Bande dessinée en 5 tomes, Nola, 8 ans, reçoit comme cadeau de sa mère disparue une mystérieuse boîte à musique. Mais quand elle tourne la clé de celle-ci, elle est aspirée à l'intérieur de la boîte. Nola se retrouve dans un monde parallèle qui s'appelle Pandorian.
Le débat.
Je rajouterai qu'elle se fera des amis, Andrea et son frère Igor. Je trouve que les illustrations dessinées par J.J. sont très explicatives et bien faites. Les personnages sont tous différents.
J'ai bien aimé ce livre car il y a de l'action. Je suis d'accord, moi aussi je trouve que les illustrations sont bien. Mais je trouve que l'auteur ne s'est pas trop attardé sur les habitants du monde parallèle.
Bonjour, je m'appelle Amy et je vais vous résumer le livre qui s'appelle Le Sacre des Trois. Le Sacre des Trois est une trilogie. L'auteur est J.D. Rinehart et les trois tomes sont en vente. Tristan, Elodie et Agulfus, ou son surnom Gulf, sont des triplés séparés à la naissance. Ce sont les enfants du tyran Brutan cachés de celui-ci qui veut les tuer car une prophétie annonce que les triplés tueront leur père et montera sur le trône. Tristan a habité à Yalasti, sa sœur elle a logé dans le château du seigneur Vistrin et Gulf a vécu avec la troupe du vieux chêne constituant d'enfants artistes qui essayent de se nourrir. Mais arriveront-ils à détrôner leur père et à monter sur le trône comme prévu ? À chaque chapitre, on est dans la tête d'un des triplés et cela change à chaque chapitre. J'adore cette trilogie car le suspense entre certains chapitres et l'attente entre chaque livre est intrigante. Leur aventure est sensationnelle. Ce livre est assez facile à comprendre mais n'est pas pour les débutants. Bref, j'ai adoré et je conseille ce livre.
Bonjour, je m'appelle Faustine et je vais vous présenter Possession, écrit par Mocha, édition M+. Après 2 mois d'absence, Malo rentre enfin chez lui. Suite à un grave traumatisme, le petit garçon a été soigné dans un centre spécialisé. Il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé, il pense qu'il est faux. Malo a du mal à renouer le contact avec ses parents et sa grande sœur. Il se sent comme un étranger dans sa propre famille. Malo est témoin de choses bizarres, des objets qui disparaissent et réapparaissent, des portes qui refusent de s'ouvrir, un plancher qui change de forme, et j'en passe. Il a l'impression que sa maison veut le tuer. Nous apprendrons par la suite que ce n'est peut-être pas si faux. Je conseille ce livre plutôt pour les ados car il reste effrayant.
Bonjour, je m'appelle Jules et je vais vous présenter un manga qui s'appelle My Hero Academia. J'espère que ça vous plaira. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Izuku Midoriya et qui vit dans un monde où 80% de la population a un super pouvoir qu'ils appellent un alter et où il y a des lycées pour apprendre à devenir un super héros. Et Izuku veut devenir un super héros, sauf que lui, il fait partie des 20% qui n'ont pas de pouvoir. Du coup, il se fait harceler pendant toute sa scolarité. Un jour, il découvre que son super héros préféré, qui est le numéro 1 des super héros, donc le plus fort, a un secret et qu'il ne peut pas toujours combattre les super vilains. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'inattendu.
Le débat.
Moi, j'adore My Hero Academia car j'aime les mangas fantastiques et que, en même temps, c'est la preuve qu'on peut surmonter les moqueries et le racisme. Je ne peux pas vous dire combien il y a de tomes car ils ne sont pas tous sortis, mais moi, j'en suis au 32e, j'attends la suite avec impatience.
J'aime ce manga car c'est plein de rebondissements et les dessins sont très bien faits.
J'ai bien aimé ce shonen, mais je le déconseille pour les enfants trop sensibles.
Bonjour, je m'appelle Léane. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman qui s'appelle Phobos, écrit par Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. C'est l'histoire de 12 adolescents, 6 filles et 6 garçons, qui ont été sélectionnés pour un voyage sans retour sur Mars. Ce programme de télé-réalité est organisé par la chaîne Genesis. Pendant ce long voyage de 5 mois, les 12 prétendants et prétendantes devront trouver l'âme sœur, se marier, avoir des enfants et créer une génération sur Mars. Chaque jour, un speed dating de 6 minutes a lieu, et plus tard, ils devront choisir leur favori pour fonder leur famille. Léonore, qui fait partie du voyage, découvre qu'ils ne vivent plus de vie intime. Tout est partagé à la télé. Ils sont filmés 24 heures sur 24. Un lourd secret cache le programme Genesis, mais il est trop tard pour retourner sur Terre.
Le débat.
«
J'adore cette série de 4 tomes, c'est très simple à lire et très prenant. Quand on le lit, on ne peut plus s'arrêter. Les personnages et les décors sont très bien détaillés. C'est tellement bien écrit qu'on s'y croirait. Je le conseille vraiment pour beaucoup de gens car c'est presque impossible de ne pas aimer.
J'ai beaucoup aimé cette série de 4 tomes. J'ai trouvé très bien d'avoir plusieurs personnes qui tour à tour racontent l'histoire des points de vue de la Terre et de Mars.
Je trouve cette série super intéressante. L'histoire se déroule dans l'espace, ce qui est génial. Les personnages ont un caractère particulier.
J'ai apprécié ce livre pour l'intrigue originale et ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'une fois que l'on commence à lire cette série, il est impossible de s'arrêter.
Bonjour, je m'appelle Maureen. Je vais vous présenter un livre qui s'intitule « Gardien des cités perdues ». Ce livre a été écrit par Shannon Messenger, une autrice de livres de jeunesse américaine. Il est édité par Pocket Jeunesse. C'est une série de 8 tomes et demi à ce jour, l'autrice a prévu d'en publier d'autres. C'est l'histoire de Sophie, une jeune fille de 12 ans qui vit dans le monde des humains. Sophie est très avancée scolairement par rapport à son âge. Elle se sent particulière. Un jour, un garçon étrange l'approche et lui apprend qu'elle n'appartient pas au monde des humains. Mais alors, qui est-elle et à quel monde appartient-elle ?
Le débat !
J'ai beaucoup aimé ce livre car c'est un univers fantastique qui donne l'impression que c'est un monde parfait. Mais il a pourtant beaucoup de défauts si on se laisse tromper par les apparences. J'ai adoré les créatures imaginaires qui ont une place très importante dans l'histoire. Le personnage de Sophie est très attachant. Chaque créature a un caractère spécial. J'étais complètement immergée dans ce monde et dans l'histoire. Il y a de l'action et des problèmes que rencontrent les personnages et il y a des changements inattendus.
Je trouve dommage que l'on n'approfondisse pas assez le passé de Sophie dans le monde des humains.
C'est vrai, mais ça nous permet de s'immerger plus facilement dans son nouveau monde.
J'adore ce livre, on est emporté directement dans l'histoire. La plupart des personnages sont attachants.
C'est une série absolument merveilleuse qui plaira beaucoup à ceux qui aiment les romans d'aventure et de fantasy.
Bonjour, je m'appelle Léonie et je vais vous présenter une merveilleuse trilogie d'Alex Bell, Le Club d'Ours Polaire. Stella Flocuperle a toujours rêvé d'accompagner son père dans ses extraordinaires voyages à travers les mondes gelés. Son rêve le réalise les jours de ses 12 ans. Elle part en expédition avec le Club d'Ours Polaire. Aux côtés d'un chuchoteur de loups, d'un magicien snob et arrogant et d'un demi-elfe timide, Stella part pour un merveilleux voyage. Mais un terrible accident bouleverse l'expédition et de nombreux dangers se dressent bientôt sur leur chemin. C'est une très bonne série, parfaite pour commencer à lire des romans. J'aime bien les personnages, notamment Ethan, le magicien.
Bonjour, je m'appelle Lucie. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Les Insoumis, de Alexandra Bracken. C'est le premier tome d'une trilogie. Dans un futur proche, tous les adolescents de 10 à 14 ans sont décimés par un virus inconnu. Les survivants sont, eux, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables. Parqués dans des camps, ils sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils ressentent. Ruby, 16 ans, et quelques autres refusent d'obéir et s'enfuient. Leur couleur à eux sera le noir. Pour sauver sa vie et celle de ses amis, Ruby devra compter sur des alliés inattendus et prendre le risque de perdre ce qu'elle a de plus cher. Je trouve ce livre génial, mais je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde, car il faut s'accrocher pour le lire, il est un peu difficile. C'est souvent la même histoire, poursuite, combat et recherche d'une cachette. J'aurais aussi aimé que l'autrice explique plus le début de l'histoire. Qui est le personnage principal? D'où vient-il? Où est-il? Comment s'est-il retrouvé ici? Etc. En définitive, j'aime ce livre, mais certains points mériteraient d'être approfondis.
Bonjour, je m'appelle Manon et je vais vous présenter une BD qui s'appelle Comme un garçon, qui a été écrite par Jenny, l'édition est Delcourt. Cette BD raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Charlotte. L'histoire est basée sur sa rivalité ainsi que de Xavier, son demi-frère, par le remariage de leurs parents. Les deux enfants aiment les défis mais Charlotte préfère les gagner. Un jour, Xavier va lui faire un défi et si elle perd, elle devra être un garçon toute son année de lycée. Bien sûr, elle va perdre le défi et elle va y faire plein de rencontres, de l'amour, de l'amitié et des ennemis.
Le débat.
J'ai adoré ce livre, ça donne envie de lire car à chaque fin de volume il y a un suspense. L'histoire est bien racontée et on peut bien s'identifier à Charlotte, le personnage principal, qui va se retrouver dans plusieurs situations.
Je suis d'accord, mais ce que tu n'as pas dit, c'est que quand elle devient un garçon, elle s'appelle Charlie.
J'aurais également rajouté qu'en entrant dans la chambre qu'elle devait partager en tant que Charlie, elle fait la rencontre d'un garçon, Gabriel.
Je rajouterais que cette BD a aussi été dessinée par l'auteur Jenny.
Bonjour, je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais vous présenter Cœur Cerise de Cathy Cassidy. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Cherry, qui a 13 ans et qui vit à Glasgow avec son père Paddy. Un jour, son père retrouve par hasard une ancienne amie de la fac, Charlotte Tambéry. Très vite, ils se rendent compte qu'ils ont encore plein de points communs et commencent à tomber amoureux. Ensuite, Paddy propose à sa fille d'aller vivre avec Charlotte, dans le sud de l'Angleterre, pour redevenir une sorte de vraie famille. Malheureusement pour Cherry, c'est aussi le début des ennuis. Sa nouvelle belle-mère a 4 filles, toutes plus belles et plus intelligentes les unes que les autres. Honey, l'aînée des sœurs, a décidé de lui rendre la vie impossible. Lors d'une fête sur la plage, la jeune fille va tomber amoureuse d'un garçon nommé Shay, qui se trouve être le petit ami de Honey.
Le débat.
J'ai beaucoup aimé ce livre, car on peut s'identifier dans quasiment tous les personnages. J'aime aussi l'héroïne Shay, car elle doit abandonner tout son passé pour suivre son père, et faire face à toutes sortes de problèmes en essayant de rester elle-même. On a aussi à chaque fois le point de vue d'une sœur, dans chaque roman. Je le conseille pour débuter.
Effectivement, c'est un très bon roman où on découvre la vie d'une famille décomposée puis recomposée.
Ah, je précise que cette série existe aussi en bande dessinée avec de très belles illustrations. C'est une super série, mais elle manque peut-être de précision sur le passé de Chéri.
J'ai beaucoup apprécié les personnages dont on suit l'évolution au cours de la série.
Bonjour, je vais vous présenter la lettre à Aline d'Amélie Billon. Un jour, une jeune fille trouve des photos de sa mère et d'une amie d'enfance. Elle propose à sa mère d'écrire une lettre à cette amie lointaine, celle-ci accepte. Dans cette lettre, elle rappelle tous les bons moments qu'elles ont passés ensemble, puis tout ce qui s'est passé après et ses regrets.
Le débat.
C'est un livre très touchant qui pourrait être inspiré de faits réels. Je l'ai beaucoup aimé, malgré tout, je recommande aux personnes qui ont le cœur fragile de ne pas essayer.
Je rajouterai que ce livre part de l'anorexie.
Bonjour, je m'appelle Sarah. Je vais vous présenter un roman du nom de Mal d'Aurore de Philippe Le Chermier. De Vienne à Ecclésia, de Kiev aux plaines de Sibérie, 5 enfants sont poursuivis par la police secrète de Russie, un homme à moustache et les effaceurs. Anya doit tout faire pour sauver son violon si spécial. Piotr arrivera-t-il à trouver les médicaments de sa grand-mère ? Cherche la fleur du mal, cherche la fleur d'or, tu trouveras Mal d'Aurore. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre rempli d'aventures, d'actions et de mystères. Le plus mystérieux, c'est la fille qui parle de Mal d'Aurore et d'Anya. Dans le premier tome de la trilogie, on découvre tous les personnages, certains ont des objets précieux et d'autres sont un peu surnaturels. Je le conseille aux personnes de plus de 10 ans.